Je n'en aurais pas fait un livre si c'en était resté là. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait un acte 1, à savoir que, me semble-t-il, ces travaux, ces recherches, ces discours sur les limites de la vie, ou de ce que nous appelons la vie, seraient restés dans les cercles ésotériques où ils sont depuis toujours, et n'auraient pas franchi, me semble-t-il, la barre d'un grand public s'il n'y avait pas eu un événement, enfin, un phénomène social beaucoup plus important et qui s'était produit avant, et celui-là conduit par des femmes qui ne sont pas dans la spéculation, la science-fiction et le ludique, mais qui sont dans la pratique et dans la compassion, parce que par des circonstances tout à fait incroyables et que j'aimerais voir étudier par des historiens, parce que je ne suis pas historien, que ces femmes ont été conduites à redécouvrir l'accompagnement de fin de vie, ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs, qui est un terme un peu technique, un peu réducteur, parce que quand... Ensuite seulement, j'ai rencontré... Alors moi, c'était Kubler-Ross, mais ça aurait pu être Cicely Saunders en Angleterre, ça aurait pu être Jeanne Garnier ici en France. Après, plus tard, sont venues les filles de celle-là, qui s'appellent Michel Salamagne, René Sebag-Lanoé, je pourrais vous en citer Michel, Marie de Henzel, disons, serait peut-être maintenant la plus connue dans notre pays. Mais, et ces femmes... les aînées de ces femmes ont été, vous prenez l'histoire, c'est facile, vérifiez, elles ont été quelque part initiées aux portes des camps. C'est incroyablement troublant. Cicely Saunders, c'est parce qu'elle reçoit des gens qui sortent d'Auschwitz. Kubler-Ross, c'est quand même, elle a campé aux portes de Majdanek toute l'année 46, elle a attrapé le typhus, elle a failli mourir. Mais elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font à ce moment-là. Ce sont des infirmières, elles sont un peu comme nos French doctors, mais ils existaient déjà et c'était plutôt... c'était des doctors et des infirmières et des aides-soignantes qui s'étaient ruées à travers l'Europe en ruine au secours de ce qu'on pouvait essayer de sauver des rescapés des camps. Et là, il se passe quelque chose, et je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais là, c'est comme s'il se passe à l'échelle mondiale, il se passe quelque chose. Et ces femmes-là, ensuite, la vie les envoie sur différentes pistes. Moi, j'ai suivi la piste de Kubler-Ross, et Kubler-Ross, c'est complètement par hasard, ensuite, qu'elle se retrouve aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, à un moment donné, elle est amenée à se rendre compte que... l'individu moderne est un géant au pied d'argile, parce qu'il est technologiquement très fort, mais il a peur de mourir. Et il a terriblement... Et il veut absolument pas en entendre parler. Et il s'évanouit pratiquement si on l'en parle. Et puis d'ailleurs, il vous ferme la gueule en disant « Tais-toi, je veux pas en entendre parler. » Et elle est conduite donc à inventer à Chicago en 66, 67, 68 cette espèce de séminaire incroyable où une fois par semaine, une fois par tous les 15 jours, elle discute très simplement, elle discute de comme on pourrait parler entre nous, elle discute avec une personne qui est au bout du rouleau, et ça peut être quelqu'un de vieux ou quelqu'un de jeune. Il y a la fameuse histoire avec la jeune Linda, c'est ça qui va frapper, parce que Linda, elle a 16 ans, elle est leucémique, elle est belle, ça fait tout de suite un feuilleton pour Life Magazine. Et pour moi, ça c'est l'acte 1 de la redécouverte de quelque chose aux confins entre la vie et la mort dans notre culture, dans notre civilisation. Et je pense que c'est que ça nous a sauvés. Parce qu'il me semble que l'être humain, c'est cet animal très spécial qui sait qu'il va mourir. Et dont les enfants savent qu'il va mourir. Moi, personnellement, j'ai 4 enfants. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler du livre que je viens de sortir sur la naissance. Le premier, premier enfant, j'avais 24 ans. Et donc j'en avais 27 quand il avait 3 ans, 28 quand il en avait 4. Je crois qu'à 4 ans, il m'a posé la première fois une question sur la mort. Les enfants, ils posent très vite, très tôt, la question « c'est vrai que tu vas mourir ?» Et moi, j'étais typiquement quelqu'un de notre société, c'est-à-dire que c'était un truc qui, moi, me terrorisait totalement. Je comprenais pas comment les êtres humains pouvaient continuer à vivre alors qu'ils savent qu'ils sont sur une espèce de tapis roulant qui conduit au néant. J'avais quelquefois, j'étais pris d'envie de hurler dans le métro, mais arrêter de faire tout semblant, comme les gens sur le Titanic qui sont dans les premières classes et puis qui sont très chics, qui boivent du champagne, ils font semblant de pas savoir que le bateau est en train de couler. Individuellement, on y a droit, évidemment. Enfin, je veux dire, chacun a se démerde comme il peut. Mais quand toute la société, globalement, collectivement, n'a pas d'autre réponse vis-à-vis d'un enfant qui demande à son père ou à sa mère à 4 ans, c'est vrai que tu vas mourir, et qu'en gros, on lui dit, tais-toi, t'en parles pas de ça. Là, c'est une société mortellement atteinte. Celle-là, elle va fondre, elle va se dissoudre, elle meurt. Parce que il y a comme ça, c'est une idée qui m'est venue après, puis en essayant de plonger dans l'anthropologie des choses. En gros, l'être humain, c'est cet animal qui sait qu'il va mourir et qui est capable de dealer avec. Alors vous dealez comme vous voulez. Vous avez des réponses religieuses, si vous voulez, ou des réponses athées, si vous voulez, mais vous négociez avec et vous répondez à votre enfant quelque chose. Et vous répondez quelque chose et vous transmettez quelque chose. Et ces femmes, elles se sont aperçues de ça. Elles se sont aperçues que pour elles, c'était évident. Pour Kubler-Ross, par exemple, c'était complètement évident. Parce que quand vous passez d'un extrême à l'autre, quand vous passez des portes des camps, où là, il n'y a plus de mensonges, ça a été décapé, hein, c'est au-delà de l'imaginable, et que vous vous retrouvez dans les grands hôpitaux modernes, dans la fin des années 50, début des années 60, c'était vraiment très américain. Maintenant, on les a nous aussi, ces grands hôpitaux modernes, où on va pas mourir, parce que la mort, c'est une espèce de maladie dont on va pouvoir trouver le vaccin bientôt, contre la mort. Il y a une technologie, il y a aucun problème, on va régler ça très bientôt. Ces femmes, elles ne pouvaient pas ne pas voir qu'il y avait là, ça faisait pitié, c'était terrible, qu'il y a tout un gigantesque travail à faire, et que la fin de vie, c'est un... Bon, alors voilà, tu m'as embarqué là-dessus, maintenant moi je suis... Tu vois, parce que là-dessus, je peux partir pendant des heures, je vais arrêter. En tous les cas, pour moi, elles ont frappé les trois coups, le théâtre s'est rouvert, et si Philippe Ariès... J'ai posé la question à Edgar Morin, et je ne sais pas pourquoi, mais... Maintenant, je le connais mieux, j'espère qu'il va finir par m'en répondre, parce que Edgar Morin, son premier livre, c'est sur la mort, en 51. Et comme Philippe Ariès, qui a écrit ce grand livre, La mort en Occident. Or, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le tabou, c'est plus le sexe, c'est la mort. Là, on peut parler pratiquement des enfants des maternelles, comment on se reproduit, enfin dire comment on se reproduit, par contre, on ne meurt plus, on ne porte plus le deuil, etc., etc. Moi, je dis que ce tabou-là, il est fortement ébréché, qu'on a évolué énormément, et grâce aux femmes. Et ce sont des femmes. Après, elles passent le relais aux hommes. Et ce qui est très drôle, c'est que le premier livre, tu as dit tout à l'heure que c'était moi qui avais fait connaître la NDE en France. C'est pas vrai. C'est Moody, parce que Moody, Life After Life, la vie après la vie, c'est 75, je crois, aux États-Unis. 76, il est traduit en France chez Lafont. Donc, dès 76. Donc, 10 ans avant que moi je sorte la source noire. Mais ce qui est très drôle, c'est que la préface de La vie après la vie, donc ce premier livre, d'ailleurs c'est Moody qui invente le terme NDE, ou mort, expérience de mort imminente, la préface, c'est Elisabeth Kubler-Ross qui la signe. Pourquoi? Parce que elle était déjà une grande dame des soins palliatifs aux États-Unis, elle donnait une conférence dans le sud. Moody, c'est un mec du sud, c'est un méridional, c'est un type à l'accent américain chantant du sud, c'est comme chez nous, c'est vraiment méridionaux, il aime bien faire la sieste, il est très cool. Et il apprend que la grande Kubler-Ross, qui fait scandale, parce qu'elle a été chassée de son université, donne une conférence dans sa ville. Et lui, ça fait un moment qu'il a collecté ces espèces d'expériences folles qui s'appellent NDE. Il va choper Elisabeth Kubler-Ross à l'entracte de sa conférence. Et il lui dit, voilà, je suis interne en psychiatrie. J'ai collecté des faits, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires comme ça. Et j'aimerais bien que vous fassiez la préface. Alors, elle prend le truc, elle prend le manuscrit et elle le feuillette. Elle l'a feuilleté quelques minutes et puis elle lui dit, mais écoutez, c'est très bien, moi c'est des histoires comme ça, j'en ai entendu plein. Alors il dit, ah bon, mais pourquoi vous n'en avez jamais parlé? Elle lui dit, mais moi j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui meurent, il faut les accompagner, ça c'est votre travail à vous. Et là, pour moi, il y a un passage de relais très... C'est incroyable. Voilà, la femme passe le relais à l'homme. Elle lui dit, toi, occupe-toi avec ça. Toi... Elles sont plus bas. Enfin, je veux dire que quand moi, j'ai fait un séminaire... Enfin, j'ai fait le début de la formation avec Kubler-Ross. Vous êtes pendant 10 jours dans un lieu fermé. C'était un monastère de franciscains avec une centaine de personnes, des Américains, tout venant, dont une bonne partie a le cancer, le sida, ou vient de perdre un enfant ou un conjoint et sont mortellement atteints. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Je peux vous dire que ça fait descendre le centre de gravité dans le ventre. Ça, elles vous font descendre. Et moi, j'étais un journaliste, je le suis encore un petit peu, mais j'étais beaucoup plus excité à l'époque. On ne pouvait pas me tenir en place. Ça m'a calmé. Et j'ai été à ce moment-là obligé d'écrire La Source Noire pour expliquer toute cette histoire.